Êtes-vous déçu de Dieu ? Ou vous est-il déjà arrivé d'être déçu par lui ? Remettez-vous en question l'amour de Dieu ? Ou vous est-il déjà arrivé de remettre en question, mais est-ce que Dieu m'aime ? Vous savez, il n'y a pas de honte à être parfois déçu par Dieu. Ce sentiment peut parfois habiter le croyant. Et ce n'est pas un péché, mais nous devons les exprimer à Dieu et nous laisser façonner par lui, car il est un Père, notre Père. Et quand on dit notre Père, c'est parce qu'il veut une relation d'intimité avec nous. En tant que jeune chrétien, ça faisait pas très longtemps que on m'avait pas baptisé, donc j'avais placé ma foi en Jésus et je m'étais engagé par les eaux du baptême. J'ai vécu, quelques mois après, un moment de déception, une sorte de crise spirituelle. Pourquoi ? Parce que je tombais toujours dans les mêmes péchés. À chaque fois, c'était dans les mêmes péchés que je retombais. J'en avais marre de mes échecs réguliers. J'ai crié à Dieu de me sortir de là, mais il n'a pas répondu. Que fait-il ? Pourquoi ne me délivre-t-il pas ? Je désirais un réveil. Je voulais plus de la présence de Dieu pour vivre de profonds changements. Pour vivre ce réveil et ces changements, j'ai beaucoup prié, passé des heures dans la parole de Dieu et j'ai surtout dévoré plusieurs livres qui m'ont aidé à comprendre la parole de Dieu, approfondir ma relation avec Dieu. C'était jusque tard dans la nuit, des mois et des mois. Je voulais obtenir ce que je cherchais, mais Dieu n'a pas répondu comme je le désirais. Il avait son propre timing. Pas le mien. J'ai été déçu, mais j'ai compris beaucoup de choses. Pendant toutes ces luttes, je ne savais pas que Dieu me formait pour un jour le servir en tant que pasteur. Il avait en vue quelque chose, et ces épreuves me formaient, me forgeaient, me façonnaient. Si vous m'aviez dit, quand j'étais dans ces épreuves, « Manu, tu seras pasteur !» J'aurais rigolé, quoi. J'aurais été flatté, mais sans aucune conviction. J'ai appris des choses très importantes. Je n'ai pas à me concentrer sur la lutte contre mes péchés et mes échecs. Je dois plutôt utiliser toute mon énergie pour baigner dans l'amour de Dieu, me maintenir dans son intimité, chercher à mieux connaître Jésus-Christ. Cela, quand on vit cette joie, on n'a pas envie de pécher. Et cela nous aide à vivre des victoires. Mais voici ce que je voudrais que nous retenions qui est fondamental dans ce que j'ai appris au cours des années. Écoutez bien, Dieu est Dieu, il ne nous doit rien et il fait ce qu'il veut. Dieu n'est pas comme nous, il n'agit pas comme nous. Son amour et sa justice ne dépendent pas des circonstances. J'aimerais que nous retenions cela ce matin. Nous finissons aujourd'hui notre série de prédications sur les petits prophètes de la Bible. Ils sont petits mais costauds. Petits parce que leur message n'est pas long comparé à des prophètes comme Ésaïe et Jérémie, mais costauds par le contenu de ces livres riches et de grande importance. Et je pense que dans la tête de certains, quand on dit costaud, ils sont difficiles à comprendre, n'est-ce pas ? Pas simple, pas toujours simple. Nous verrons ensemble dans la Bible ce livre du prophète Malachie. Dans ce livre, le peuple d'Israël est déçu de Dieu, déçu par Dieu. Le temple, symbole de la présence de Dieu dans la ville, a été reconstruit depuis près d'un siècle. Les Israélites peuvent enfin vivre des choses fortes avec Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Ils ont perdu leur enthousiasme pour Dieu. Ils se sont relâchés dans leur relation avec Dieu et ont négligé le culte qu'ils lui doivent. Pourquoi ? Parce que leurs attentes sont déçues. Juda reste une province relativement insignifiante. de l'Empire perse. Dieu n'a apparemment pas accordé un grand succès à son peuple. Dieu ne devait-il pas accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham puis à David des siècles avant? Le peuple ne devait-il pas être nombreux et puissant maintenant? De plus, les Israélites attendent le Messie. Sa venue au pouvoir, pour la paix, pour la prospérité. Hey! Toutes ces promesses ne se sont pas réalisées. La vie est dure à Jérusalem. Il y a de la pauvreté, de la corruption, de l'injustice. Les promesses de Dieu ne se sont pas réalisées. Le peuple est déçu. Déçu. Mais lorsque nous sommes déçus par Dieu, écoutez bien, nous avons deux choix. Venir à lui ou s'éloigner de lui. Les Israélites ont choisi de s'éloigner de Dieu. Pour certaines personnes, peut-être à regarder le peuple de Dieu, ils se diraient, ben non, ils ne se sont pas éloignés de Dieu, mais quand vous regardez de plus près, ils se sont vraiment éloignés de Dieu. À travers le livre de Malachie, vous verrez que de grands dangers nous guettent si nous restons dans des attentes déçues. S'attarder sur nos attentes, exiger que Dieu y réponde comme on le veut et quand on le veut, et rester déçu par lui sans s'approcher de lui, sans accepter ses réponses, ou nos propres réponses, plutôt nos propres questions sans réponse, eh bien, après cela, il y a des conséquences terribles, les amis. Voici les conséquences concernant le peuple de Dieu. La première chose qu'ils vivent, qui révèle l'endurcissement de leur cœur, c'est qu'ils restent convaincus que Dieu ne les aime pas. Dieu dit à son peuple dans Malachie chapitre 1 verset 2, « Moi je vous ai aimé. » Mais le peuple demande, « En quoi donc nous as-tu aimé ?» Les Israélites remettent en question l'amour de Dieu. Les doutes et l'incrédulité habitent le cœur de la majorité du peuple. Comment Dieu peut-il nous aimer ? Notre gouvernement est corrompu, nos économies ne prospèrent pas et le Messie ne vient pas. Les promesses de Dieu ne se réalisent pas, donc il ne nous aime pas. Les Israélites croient que leurs difficultés actuelles indiquent clairement qu'ils ne sont pas du tout aimés de Dieu. Dieu leur répond en se référant au passé, dans les versets 2 à 5 du premier chapitre. Je ne vais pas les lire. Mais dans ces versets, il montre que la destruction d'Édom, qui était l'ennemi d'Israël, doit être interprétée comme un signe de son amour pour Israël. C'est un fait historique que Dieu rappelle pour montrer qu'il s'est engagé envers son peuple et n'a pas rompu son alliance. Ils vont le comprendre un peu après, mais leur problème est à cause de leur péché. On le verra dans quelques instants. Mais restons sur ce problème de remise en question de l'amour de Dieu. Vous savez quoi ? Satan, le diable, nous attaquera toujours sur ce point. Toujours. Il fera tout pour nous faire croire, chrétien ou non chrétien, que Dieu ne nous aime pas. Il mettra le doigt sur les circonstances difficiles de notre vie pour affirmer avec force que Dieu ne nous aime pas. Tu vois, il y a une tuile qui t'est tombée sur la tête. Dieu ne t'aime pas. Ou Dieu n'existe pas. Ça dépend où on se situe. C'est surtout lorsque nous vivons des deuils, des échecs ou de grandes épreuves que nous remettons facilement en cause l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Et Satan en profite. Satan en profite. Et chez les chrétiens, Satan les amènera à croire qu'ils ne sont pas de bons chrétiens. Que Dieu est toujours en colère contre eux, il leur en veut, et que lui ne remplira pas ses promesses envers eux. Mais c'est un mensonge. Comme Dieu l'a fait pour son peuple, nous devons nous souvenir de ses œuvres passées. Déjà, si nous prenons le temps de regarder les bénédictions de Dieu dans notre vie quotidienne, nous serons émerveillés. J'étais dans la chambre avec les enfants, avec Noé et Lucie, puis je disais, on va prendre le temps de compter les bienfaits de Dieu. On vient de le chanter, n'est-ce pas? Alors si on commence par le premier jouet, après le deuxième, il y en a trop. Et puis on énumérait là tout ce que Dieu fait. Il y en a tellement. On devient face à ce que Dieu fait, même la respiration, le fait que nous vivons, le fait que nous mangeons, le fait que nous travaillons, etc. Il y a tellement de bienfaits de Dieu. Mais le plus touchant est ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. C'est dans le passé, mais c'est quelque chose de tellement fort. Son immense amour se voit de manière éclatante en Jésus-Christ qui est mort à notre place. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et pourtant, est-ce que nous étions amis de Dieu? La Bible dit que nous sommes plutôt ennemis de Dieu à cause de nos innombrables désobéissances envers lui. Jésus s'offre pour nous afin de pardonner nos péchés et nous donner la vie éternelle. Sur la croix, objet de torture, nous avons la démonstration la plus touchante de l'amour de Dieu pour nous, parce qu'il a subi une punition si brutale et imméritée pour nous sauver de la mort et de l'enfer. Merci Jésus-Christ. Il est parfois difficile de percevoir l'amour de Dieu dans les moments difficiles. C'est comme un brouillard qui se met sous nos yeux. Alors pour nous aider, rappelons-nous ce passé. Dieu nous aime tellement qu'il a donné sa vie pour nous. On ne le méritait pas. Mes amis, vous vous rappelez ce que j'ai dit au tout début? Dieu est Dieu. Il ne nous doit rien. Il ne fait pas. Il n'agit pas comme nous. Il n'est pas comme nous. Il fait ce qu'il veut. Son amour et sa justice ne dépendent pas des circonstances. Alors continuons à croire dans son amour pour nous. Que son amour continue à nous émerveiller. La deuxième chose qui révèle l'endurcissement du cœur des Israélites, c'est qu'ils méprisent Dieu par des animaux impurs. Je cite Malachie, donc chapitre 1, versets 6 à 7. Le Seigneur des armées célestes s'adresse à vous les prêtres, vous qui le méprisez. Un fils honore un père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, où donc sont les honneurs qui me sont dus? Si je suis votre maître, où est la crainte qui m'est due? Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous méprisé? Vous apportez sur mon autel des aliments impurs. Fin de citation. Dieu dit ici aux prêtres qui lui donne des animaux impurs et malades en sacrifice. J'avais vu sur Internet, en regardant des animaux malades, quelqu'un avait mis un animal qui vomit, quoi. On imagine un peu l'image terrible, quoi. À cette époque, pour s'approcher de Dieu, être pardonné, lui exprimer notre amour, notre gratitude, il fallait sacrifier des animaux purs et sans tache. Les prêtres étaient censés savoir que les sacrifices pour Dieu devaient être faits avec des animaux purs, parce que Dieu est saint. Dieu est saint, parfait en pureté, digne de recevoir le meilleur que nous ayons. Mais les prêtres offraient des victimes impures, malades. C'est comme si vous receviez une personne importante chez vous pour le repas et que vous lui serviez une boîte de sardines. Pire, vous lui servez de la viande avariée, pourrie, sent bien mauvais, sans la manger vous-même. C'est de la folie. C'est ce que faisaient les prêtres. Ils étaient capables de servir Dieu avec des choses sales, malades, strictement interdites par la loi de Dieu. Ils ne respectaient plus Dieu, en fait. C'est ce que Dieu dit. Vous ne me craignez plus. Leur attitude est grave et hypocrite. Déçus de Dieu, les prêtres acceptent les compromis. Ils se livrent à l'impureté. Le culte est négligé. Ils pêchent contre Dieu. Mes amis, vous avez vu ce qui se passe quand nous restons déçus par Dieu et que nous ne revenons pas à lui. Il peut se passer cela aussi. Dieu ne veut pas d'une religion de façade. Venir à l'église et chanter les louanges de Dieu tout en n'ayant aucune relation avec lui pendant la semaine, si nous sommes chrétiens, c'est le mépriser. Exprimer notre gratitude à Dieu tout en vivant dans la désobéissance le reste de la semaine, c'est le mépriser. Dieu veut que nous lui donnions le meilleur que nous ayons, le meilleur de nous-mêmes. Quand on dit cela, c'est le meilleur de notre énergie, de notre temps, de nos ressources. C'est ainsi que nous l'honorons vraiment. Si nous avons une attitude de façade et d'hypocrisie, Dieu nous dit, comme au prêtre dans Malachie, chapitre 1, verset 10, « Je n'ai aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je n'agrée pas l'offrande de vos mains. » Mes amis, Dieu est Dieu. Il ne nous doit rien. Il fait ce qu'il veut. Dieu n'est pas comme nous et il n'agit pas comme nous. Son amour et sa justice ne dépendent pas des circonstances. Alors donnons le meilleur de ce que nous avons. Donnons le meilleur de nous-mêmes. La troisième chose qui révèle l'endurcissement du cœur des Israélites, c'est qu'ils lassent Dieu en le traitant d'injuste. Chapitre 2, verset 17. « Vous lassez l'Éternel par vos discours et puis vous demandez « En quoi te lassons-nous » C'est parce que vous dites « Quiconque fait le mal est bien vu de l'Éternel. » Il a plaisir en ces gens-là. Ou bien encore, « Où est le Dieu de la justice ?» Fin de citation. Les Israélites se plaignent de Dieu parce que les méchants sont plus prospères qu'eux. Par leurs questions, ils disent à Dieu qu'il est injuste. Pire encore, ils disent que Dieu prend plaisir en ceux qui font le mal. Leur analyse est complètement fausse. On a l'impression que par leur attitude, ils essayent de provoquer Dieu. Allez, pour qu'il les bénisse, pour qu'il soit favorable, pour qu'il les aide à prospérer. Allez, fais quelque chose, les autres prospèrent, tu fais quoi là? T'es injuste. C'est comme ça qu'on fait avec Dieu? Dans les premiers versets du chapitre 3, Dieu répond à son peuple en disant qu'un jour, il jugera les méchants. Vous ne voyez pas le jugement maintenant, mais il viendra. Il jugera aussi son peuple. Juge les autres, mais et vous alors? Il jugera aussi son peuple en le purifiant de ses nombreuses bêtises, désobéissances, de ses nombreux péchés. Il nous est certainement arrivé à tous de crier « Justice !» face à toute forme d'injustice. Surtout quand nous voyons l'injustice chez des innocents, alors que les méchants s'en tirent à bon compte. Mais sachons une chose, la justice de Dieu n'est pas encore pleinement manifestée. Mais au jour que Dieu a fixé, au jour où Dieu a prévu, le jour que Dieu a prévu, elle se déploiera, sa justice se déploiera pleinement. Amen. Dieu est juste et il rendra justice. Mes amis, Dieu est Dieu. Il ne nous doit rien. Il fait ce qu'il veut. Dieu n'est pas comme nous et il n'agit pas comme nous. Son amour et sa justice ne dépendent pas des circonstances. Alors continuons à faire confiance à la justice de Dieu, qui au jour qu'il a fixé, sera pleinement manifesté. J'ai hâte que Dieu rende justice. Il y a d'autres péchés qui révèlent la dureté du cœur des Israélites. Dans le livre de Malachie, on parle de divorce, de mariage avec des personnes qui sont idolâtres, qui adorent d'autres dieux. On parle aussi de la dîme, les 10% de leurs revenus parce qu'ils devaient pourvoir aux besoins du temple et des prêtres. Et donc tout cela a été négligé. Ils se laissaient aller. Comme si la vie avec Dieu, leur vie privée n'avait aucun lien avec la relation avec Dieu. Mais je voudrais maintenant creuser une chose qui me paraît vraiment plus importante que tout cela. Nous allons maintenant creuser ce qui se passe au plus profond de leur cœur. Comme nous voulons de le voir, les Israélites sont déçus de Dieu et cela a de graves conséquences. Mais que s'est-il réellement passé au plus profond de leur cœur pour qu'ils se détournent autant de Dieu? Voici ce qui se passe. Les Israélites, déçus de Dieu et découragés, ont une très mauvaise image de Dieu. Pour eux, Dieu est censé subvenir à tous leurs besoins comme ils le veulent, comme s'il leur devait quelque chose. Il doit les bénir malgré leurs péchés, leur désobéissance. Dieu n'est pour eux qu'un instrument de bénédiction qu'il faut convaincre. C'est un Dieu qui peut accepter leur négligence spirituelle. Comme Dieu n'agit toujours pas comme il le souhaite, les Israélites ne font plus d'efforts et ont perdu leur enthousiasme pour Dieu. Ils ne cherchent plus à honorer Dieu, à le respecter. Ils essayent quand même de donner des coups de coude, de faire certaines choses sérieusement, offrir des animaux en sacrifice, quoique là ils sont pas du tout purs, pleurer, gémir dans la présence de Dieu, souhaitant que Dieu agisse, leur soit favorable, mais sans conviction. Ils servent Dieu uniquement pour recevoir des avantages, des bénéfices. C'est comme du donnant-donnant. Hein. Ce tableau n'est pas beau du tout. Et malheureusement pour nous, les amis, les Israélites révèlent par leur cœur, leur dureté de cœur, à quel point nos cœurs sont tordus. La Bible dit que nos cœurs sont tortueux par-dessus tout. Comme les Israélites, nous avons en nous cette triste tendance à l'orgueil. Nous devons le reconnaître ce matin. Pas facile, parfois. Nous avons en nous la triste tendance à vivre notre vie sans Dieu. Nous nous éloignons si facilement de lui et de ses beaux projets pour nous et notre vie quotidienne. Nous sommes facilement déçus par Dieu parce que nous pensons qu'il nous doit quelque chose. Tu me dois la santé, tu me dois le bien-être, tu me dois la prospérité, le succès. Et tant qu'on n'a pas, ces cases ne sont pas cochées, Dieu m'aime pas. En nous, il y a cette triste tendance à vouloir réduire Dieu à un objet de bénédiction qui ne devient qu'un bonus dans notre vie. Nous voulons être en contrôle. Et nous avons tendance à vouloir que Dieu nous serve plutôt que de le servir. Nous vivons comme si Dieu nous devait quelque chose. Nous sommes si ingrats envers lui que nous ne remarquons pas ses innombrables bienfaits envers nous. Ce matin, nous avons besoin de nous rappeler que Dieu est Dieu. Il ne nous doit rien. Il fait ce qu'il veut. Dieu n'est pas comme nous, il n'agit pas comme nous. Son amour et sa justice ne dépendent pas des circonstances. Dieu mérite le plus grand respect, l'obéissance la plus parfaite et l'amour le plus intense. Mais nous avons un problème. Nous l'avons vu, nos tendances égoïstes, orgueil envers Dieu, ne nous aident pas à plaire à Dieu. L'orgueil et l'égoïsme sont comme collés à notre cœur, ne laissant aucune place à la sainteté. À cause de cela, nous méritons la mort et l'enfer. Seul Dieu peut transformer notre cœur pour lui offrir enfin le plus grand respect qu'on lui doit, la plus parfaite obéissance, l'amour le plus intense que nous lui devons. Et vous savez quoi? Dieu a tout pourvu pour l'honorer. Il nous a donné deux belles promesses. C'est ce que nous allons voir maintenant. Première promesse, Dieu envoie pour nous Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Malachie chapitre 3, verset 1. « Eh bien, je vais envoyer mon messager pour qu'il aplanisse la route devant moi. Et soudain, il viendra pour entrer dans son temple, le Seigneur que vous attendez. » Ah, intéressant. C'est l'ange de l'Alliance, appelé de vos vœux. Le voici, il arrive, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Miam, miam. Une belle promesse, là. Et à la fin du livre de Malachie, il écrit aussi, voici, je vous envoie Élie, le prophète. Il est déjà mort. On parle d'un autre Élie. Ok ? Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible. Il y a aussi annonce de jugement. Dans ce texte, Dieu annonce qu'il va envoyer quelqu'un pour préparer le chemin devant lui. C'est la voix qui crie dans le désert. L'Élie, chargé de préparer la venue du Seigneur. Qui c'est ? Qui c'est ? Jean-Baptiste. Le Nouveau Testament, qui est la deuxième partie donc, de la Bible, l'identifie clairement, comme vous venez de le dire, à Jean-Baptiste. Imaginez un peu, plus de 400 ans après cette prophétie de Malachie, le messager et le nouvel Élie se révèlent, c'est Jean-Baptiste qui prépare le chemin du Messie promis et tant attendu, Jésus-Christ, notre grand libérateur. Jésus-Christ ensuite est venu sur terre, il est mort et ressuscité. Si nous plaçons notre foi en lui, nous pouvons recevoir la vie éternelle, une nouvelle vie, marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Le texte nous amène encore plus loin, jusqu'à la fin des temps où Jésus-Christ reviendra pour condamner tous ceux qui l'ont rejeté et pour sauver tous ceux qui ont placé leur foi en lui, mis toute leur confiance en lui. Deuxième promesse, Dieu nous rend purs pour le servir. Ce n'est pas possible par nos propres forces. Nous l'avons vu à cause de notre orgueil, notre égoïsme. Écoutez Malachie chapitre 3, versets 2 à 4. Qui supportera le jour de la venue, de sa venue, ou qui tiendra quand il apparaîtra? Car il sera semblable au brasier du fondeur, au savon des blanchisseurs. Ça va nettoyer. Il siégera pour fondre et épurer l'argent. Oui, les descendants de Lévi, il les purifiera, il les affinera comme l'or et l'argent, et ils seront alors pour l'Éternel des hommes qui lui présenteront l'offrande dans les règles. Enfin, l'offrande de Juda et de Jérusalem plaira à l'Éternel, comme aux jours d'autrefois, aux années de jadis. On retrouve ici les péchés que nous avons un peu mentionnés avant, et là maintenant, ce sera plus des péchés. L'offrande va être acceptée. Dieu purifie. Ce texte dit que Dieu purifie les Lévites, ces prêtres qui avaient commis de graves fautes. Et alors, les Israélites et les Lévites pourront rendre un culte qui plaira à Dieu. Cette promesse de purification concerne les Israélites ici. Mais Jésus-Christ fera de même pour son Église. Il a promis de purifier son Église jusqu'à son retour. Ça va prendre du temps. Ce n'est pas juste en un jour. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27, nous lisons « Il a donné sa vie pour elle. » Jésus a donné sa vie pour l'Église, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée. Par quoi ? Par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Voilà la promesse. Mes amis, Jésus ne cesse de purifier et d'embellir son Église. Est-ce que vous le saviez ça? Pour vivre pleinement cette purification, il utilise les circonstances, mais il utilise surtout son esprit, sa parole. Approchons-nous de Dieu, vivons dans son intimité, laissons-nous façonner par lui au travers de sa parole. Lisons et méditons la Bible jour après jour, cela aura un effet purificateur sur nous et sur toute l'Église. Et faisons tout notre possible pour mettre en pratique la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que nous avons reçu, nous qui avons placé notre foi en Jésus, le Saint-Esprit qui agit et qui ne cesse d'agir. Demandons à Dieu son aide pour lui offrir le plus grand respect, la plus parfaite obéissance et l'amour le plus intense. Mes amis, si vous êtes déçus par Dieu ce matin, pour X raisons, je vous en supplie, ne vous éloignez pas de lui. Dieu n'est pas comme vous le pensez. Il n'est pas à notre service. Dieu est Dieu. Il n'est pas un instrument de bénédiction. Dieu n'agit pas non plus comme nous le ferions. Dieu est Dieu, il ne nous doit rien et il fait ce qu'il veut. Dieu n'est pas comme nous, et il n'agit pas comme nous. Son amour et sa justice ne dépendent pas des circonstances. La justice et l'amour de Dieu ne sont pas encore pleinement manifestés sur terre, mais au jour que Dieu a fixé, ils seront pleinement manifestés. En attendant que Jésus-Christ revienne, les amis, pour nous offrir le paradis, goûtons jour après jour à son amour. Vivons dans son intimité et surtout, trouvons notre bonheur suprême dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous réconcilier avec Dieu pour l'éternité. Amen. Je vous invite à dire avec moi ces paroles. Dieu est Dieu. Il ne nous doit rien. Il fait ce qu'il veut. Dieu n'est pas comme nous et il n'agit pas comme nous. Son amour et sa justice ne dépendent pas des circonstances. Dieu notre Père, ne pas te connaître bien nous conduit à déformer ton image. Dans les problèmes que nous traversons, nous pouvons si facilement être déçus par toi, car nous ne savons pas comment tu agis dans l'histoire. Pardon pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de toi à cause de notre fierté, de notre orgueil, de notre impatience dans nos attentes envers toi et de notre désobéissance. Notre Dieu, nous voulons nous rappeler ce matin que tu es Dieu. Tu ne nous dois rien, tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas comme nous et tu n'agis pas comme nous. Ton amour et ta justice ne dépendent pas des circonstances. Merci notre Dieu, car le jour que tu as prévu, que tu as fixé, tu réaliseras pleinement toutes tes promesses de justice, de jugement et de restauration du monde. Merci parce que Jésus-Christ revient bientôt. Merci car sur la nouvelle terre, tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ pourront, en ta présence glorieuse, être complètement comblés de ton immense amour. Notre Dieu, aide-nous à t'offrir le plus grand respect, l'obéissance la plus parfaite et l'amour le plus intense par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.